tout d'abord, un grand merci aussi à la Fondation Ta Pièce qui m'a invitée. Et comme Nalo, je veux vous dire que le fait d'apprendre il y a si peu de temps, enfin, juste avant de venir, ce qui s'est passé à Madrid, ça a été très fort et ça m'a donné encore plus envie de venir pour être plus proche de vous. Maintenant, ma difficulté, c'est après avoir entendu Nalo et la qualité de sa façon de parler me rend extrêmement timide parce que je lui disais juste avant quand on se parlait, moi j'ai une façon d'écrire qui est un peu dense et pas aussi poétique et aussi formellement agréable, donc je suis un peu gênée. Également, pour faire le lien entre ce que Nalo a évoqué concernant l'hybridité culturelle, je dirais que, pour introduire, moi, ce qui me fascine, je ne vais pas forcément vous en parler très bien ici, c'est le lien qui est systématiquement fait dans la culture contemporaine entre ce qui est des différences culturelles, des différences sexuelles, et comment tout cela est métaphorisé au travers des différences entre espèces différentes. Le fait qu'on métaphorise dans bien des films et justement dans la science-fiction les différences culturelles sous forme de différences entre espèces. Et également, ça rejoue la problématique entre les hommes et les femmes étant souvent décrites comme plus proches de l'animalité du fait de leur lien avec la reproduction qui est perçue dans les sociétés occidentales modernes comme animalisante. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Il existe un journal qui produit des critiques de télévision et des programmes de télévision qui s'appelle en France Télérama. Et ça produit également des critiques de cinéma et de théâtre. Et dans le dernier numéro de Télérama qui est paru en 1999, un petit article proposait d'établir une liste de faits qui caractériserait l'humanité de l'an 2000 au regard de celle de l'an 2100 et quelques. Entre autres faits remarquables, on pouvait relever, en l'an 2000, les gens étaient enfantés à l'intérieur de leur mère comme les animaux. Retenons ce fait. La maternité, la grossesse, l'enfantement naturel, la nécessité d'être englobé dans un corps de femme avant de naître relèguerait l'humanité au rang de l'animalité. Ce constat pourrait n'être qu'anecdotique s'il ne constituait une constante dans les récits et les films de science-fiction qui ont pour thème la procréation. Dans cette intervention, j'accorderai à ces œuvres de science-fiction la valeur de mythes contemporains occidentaux susceptibles de nous éclairer sur la transformation des représentations de la maternité. Le premier du genre, que la petite citation de Télérama nous remet en mémoire, est bien évidemment « Le meilleur des mondes » d'Huxley, publié dès 1932. Je pense que c'est important de rappeler la date, 1932. Les enfants y sont fabriqués en flacons et élevés dans des centres spécialisés. Ça, en général, tout le monde s'en souvient. Huxley, « Meilleur des mondes », enfant en flacons. Mais ce que l'on tend à oublier, c'est que la viviparité, c'est le terme scientifique utilisé à dessein par Huxley, donc la viviparité, c'est-à-dire le fait d'en passer par un ventre féminin pour naître, y est perçue comme une infâme chose du passé, ne subsistant plus qu'à l'état de survivance honteuse dans quelques réserves de sauvages, justement des Indiens d'Amérique. L'apogée de la civilisation correspond dans cette utopie à l'avènement de la stérilisation généralisée. Celle-ci s'accompagne de la disparition de la famille, s'il n'y a plus de parents, il n'y a plus de famille, du mariage et de toute forme de relations de parenté qui sont devenues autant d'obscénités. De fait, dans ce mythe d'anticipation, la pornographie n'est pas rattachée au sexe, mais à l'enfantement. Alors que les adultes s'adonnent à volonté aux activités érotiques, s'extasiant devant les ébats sexuels des bambins dans les cours de récréation, ils sont offusqués lorsqu'on leur rappelle l'origine vivipare de l'humanité. Il en va ainsi pour les étudiants auxquels s'adresse le directeur de l'incubation et du conditionnement des bébés, notamment lorsqu'il les questionne sur la signification du mot « parent ». Citation. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. « Les êtres humains, autrefois, étaient, » dit-il avec hésitation, le sang lui affluait aux joues. « Enfin, ils étaient vivipares. » Le pauvre garçon était éperdu de confusion. « En un mot, » résuma le directeur, « les parents étaient le père et la mère. » Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. « La mère, » répétait-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science. « Ce sont là, » dit-il gravement, « des faits désagréables, je le sais. Mais aussi, il faut bien se souvenir, qu'en ces jours de grossière reproduction vivipare, les enfants étaient toujours élevés par leurs parents et non dans des centres de conditionnement de l'État. » Essayez de vous rendre compte de ce que c'était que d'avoir une mère vivipare. De nouveau ce mot ordurier. Essayez de vous imaginer ce que signifiait vivre dans sa famille. Ils essayèrent, mais manifestement sans le moindre succès. Et savez-vous ce qu'était un foyer ? Ils secouèrent la tête. Pareil à une folle furieuse, la mère couvait ses enfants, comme une chatte ses petits. Notre Freud avait été le premier à révéler les dangers épouvantables de la vie de famille. Le monde était plein de pères, était par conséquent plein de misère, plein de mères, et par conséquent de toute espèce de perversion, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté. Plein de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folie et de suicide. » Fin de citation. Dans l'univers sans mère dépeint par Huxley, le plaisir sexuel est roi. Point de mariage et encore moins de monogamie, puisque chacun appartient à tout le monde. C'est une des devises du meilleur des mondes avec la stérilisation. En conséquence, la chasteté y apparaît comme l'une des pires perversions. Elle prévient l'accession à l'expérience spirituelle la plus noble, celle de l'orgasme, qui sous-tend l'épanouissement individuel dans un monde ayant atteint le plus haut degré de la civilisation. La chasteté renvoie à ces temps reculés où elle constituait le seul moyen efficace pour juguler la reproduction. Sexe et procréation sont donc posés comme fondamentalement antithétiques. La civilisation, nous répète Huxley, c'est la stérilisation, c'est-à-dire l'éradication de la maternité. Pour être des humains véritables, des civilisés à part entière, il faut jouir pleinement, c'est-à-dire être libéré du joug reproducteur. L'érotisme est l'apanage de l'humanité. Il inscrit pleinement dans la culture, tandis que la reproduction naturelle rabaisse au niveau de la nature et par là de l'animalité. Ce récit d'anticipation reflète admirablement l'évolution des représentations et des pratiques touchant à la reproduction dans les sociétés occidentales, où les activités érotiques et la procréation tendent effectivement à être appréhendées comme des domaines indépendants l'un de l'autre. L'accession à une sexualité épanouie requiert que les individus soient protégés des risques reproducteurs. On met donc à la portée des individus pubères des moyens contraceptifs efficaces visant à prévenir la grossesse. La fécondité des femmes est en quelque sorte assimilée à une maladie qu'elles doivent traiter de la puberté à la ménopause. Et lorsqu'elles souhaitent enfanter, elles doivent s'adresser à des spécialistes, gynécologues et obstétriciens, qui ont la charge plus ou moins exclusive de la grossesse. Car la procréation est devenue un domaine réservé, celui du médicalement assisté. Huxley, je le répète, associe donc dès 1932 l'émancipation sexuelle au contrôle sur la fécondité. Et en effet, la liberté sexuelle et l'égalité des sexes sont redevables au développement des moyens de contrôle sur la fécondité. De fait, la grossesse, cette phase de la reproduction sexuée dévolue aux seules femmes, confine à une asymétrie quasi intolérable dans le cadre d'une idéologie démocratique qui se fonde sur l'égalité, c'est-à-dire sur une réduction de l'altérité. Je parle ici évidemment de l'idéal d'égalité. Dans cette optique, l'égalité doit en passer par la symétrisation des rôles sexuels, masculins et féminins, paternels et maternels. Seul obstacle, la gestation. La nécessité d'en passer par un corps maternel pour naître et pour faire naître. Une solution envisageable, faire en sorte que les humains ne soient plus enfantés à l'intérieur d'un corps de femme, mais dans un environnement asexué. Ça, la science-fiction s'y emploie. Pour devenir l'égale de l'homme, la femme devrait donc sacrifier ce qui était son exclusive, la grossesse, voire l'enfant. Nous ne sommes plus ici au niveau de la seule utopie. Je vous rappelle que pour, en fait, bien des femmes, pour accéder à un statut social équivalent à celui des hommes, bien des femmes choisissent de barrer leur fonction maternelle. Et là, on n'est pas seulement au niveau de l'exotisme, parce que, par exemple, en ex-RDA, donc l'Allemagne de l'Est, à la suite de la vague de chômage qui a suivi la réunification, des centaines et des centaines de femmes se sont faites stériliser pour prouver à un éventuel employeur qu'elles n'auraient plus de nouvelles contraintes familiales. Ces faits bruts entrent en résonance avec le commentaire de la photographe Bettina Reims sur l'une des photos de son exposition INRI. Elle a fait des photos pour illustrer la Bible. Elle nous dit « Marie est la nouvelle Ève qui sauve les femmes et le monde en sacrifiant son enfant. » Comment comprendre cette interprétation biblique de Bettina Reims, sinon en constatant que l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la disjonction entre sexualité et procréation, combinée au sacrifice de l'enfant, libère les descendantes d'Ève, la mère originaire, de l'héritage abject qu'elle leur a légué, une forme archaïque de maternité. Ève est coupable d'être une mère à l'ancienne. Marie, la moderne, s'y substitue pour sauver les femmes et se faisant racheter l'humanité tout entière en assumant une reproduction asexuée, signe précurseur de l'avènement d'un monde meilleur, plus évolué, plus civilisé. Dans l'iconographie hollywoodienne, la figure de la rédemption est incarnée par l'héroïne de la saga Alien, le lieutenant Ripley. Elle doit, elle aussi, pour sauver l'humanité menacée par une procréation aberrante, sacrifier sa progéniture, sa fille, puis son fils. Nous allons voir que dans le domaine de la science-fiction, cette superproduction hollywoodienne en 4 épisodes, Alien, pourrait être considérée comme la suite logique du meilleur des mondes. Tout s'y passe comme si la procréation, sous le masque du monstre, revenait hanter les humains qui l'ont désavoué en la séparant de la sexualité. Donc on a séparé sexe et procréation, et le monstre, c'est une façon pour la procréation de revenir par la petite porte. Ce type de film anticipe un futur où la gestation, la grossesse, déchue de ses droits, chercherait à réinvestir le corps des humains, quel que soit leur sexe, et la terre où elle a été désavouée. Et comme par hasard, dans ce monde du futur où règne la mixité et l'égalité des sexes, seule une femme est à même de combattre cette survivance aberrante qu'est la grossesse. Cette nouvelle forme de mythologie fait donc ressurgir de manière dramatique ce qui tend à être occulté dans nos sociétés égalitaires, une asymétrie primordiale en faveur des femmes au plan de la reproduction, qui permet de leur attribuer des pouvoirs particuliers et exclusifs. L'utérus y est perçu et présenté comme une boîte de Pandore d'où peuvent s'échapper 1000 démons. En apportant la possibilité de dissocier sexualité et procréation, les nouveaux modes de reproduction, fécondation in vitro, bébé éprouvette, clone, érige le champ obstétrical en domaine réservé de la relation séparée, excusez-moi, en domaine séparé de la relation entre les sexes. Et ce faisant, ils ne font que consacrer ce qui spécifie la fonction reproductrice féminine, à savoir la phase gestationnelle. La grossesse peut alors se manifester dans l'imaginaire culturel sous la forme d'une entité autonome, scindée de son support sexuel habituel, la femme. On a la femme d'un côté et la grossesse de l'autre. La grossesse prend l'aspect d'une bête dont le masque monstrueux recouvre les pouvoirs féminins occultes et mortifères que des apprentis sorciers tenteraient sans succès et siècle après siècle de museler. On est ainsi amené à assister au combat entre la femme et sa fonction procréatrice, moyen d'associer ce qui a été préalablement dissocié. Mais si le mythe suggère une telle éventualité, il y appose également une solution originale, celle d'une initiation féminine autorisant les femmes à juguler elles-mêmes leur puissance maternelle. En effet, l'épopée alien est également l'allégorie d'une initiation féminine. Les scénaristes de films de science-fiction usent souvent d'une trame initiatique empruntée aux matériaux ethnographiques. Ils ont une formation ethnologique minimale. Au cours des initiations masculines et féminines, qui en cours dans des sociétés dites traditionnelles, celles-là bien réelles, les jeunes gens sont séparés de leur milieu habituel et envoyés hors du village, en brousse ou en forêt, c'est-à-dire dans une zone non domestiquée, sauvage, où ils vivent reclus. C'est dans cet espace hors société qu'ils vont subir bon nombre d'épreuves censées les transformer. La dernière étape de l'initiation va consister à les réintroduire dans la société ordinaire avec un statut nouveau d'homme ou de femme adulte, habilité à se marier et à avoir des enfants. Alors on va regarder la trame du scénario d'Alien. Une jeune femme est extraite de son milieu habituel, la Terre, pour être immergée dans un environnement sauvage, non domestiqué, l'espace intergalactique. Et là, elle doit affronter bon nombre d'épreuves qui la confrontent à la part de la féminité à laquelle elle n'a pas encore accédé. La maternité qui la terrifie et qui revêt pour elle la forme hideuse d'un monstre. Elle est toutefois conduite à l'assumer progressivement. Au cours des 4 épisodes, elle est successivement mère nourricière d'un chaton, ce que vous avez vu pour ceux qui ont vu le film, le premier épisode hier, mère adoptive d'une fillette dans le deuxième épisode, génitrice d'une femelle alien dans le troisième, puis d'un mâle non humain. Elle finira ainsi par incorporer la part animale qui la consacre femme, la part animale évidemment étant la fonction reproductrice. Elle devra pour cela subir l'épreuve ultime, la mort, pour renaître de ses cendres, totalement métamorphosée. Elle renaît alors plus forte et plus féminine qu'avant. Elle est alors à même de terrasser définitivement le dragon maternel, ce qui l'autorise à réintégrer la société humaine en revenant sur Terre. Les initiations masculines et féminines qui ont cours dans d'autres contextes culturels, cela bien réel, légitime l'accession des individus à un rôle procréateur qui les fait passer du statut d'enfant à celui d'adulte habilité à devenir parent. L'initiation de l'héroïne d'Alien, en revanche, la conduit à forclore son rôle maternel. Elle l'incorpore, certes, mais pour mieux le faire taire en tuant la progéniture qu'elle a elle-même générée. On relèvera que le symbolisme de la mort et de la renaissance de l'héroïne, si dramatiquement mis en scène au cours des 2 derniers épisodes d'Alien, et dans ses autres contextes culturels plus traditionnels, le propre de l'initiation masculine. Grâce à cette épreuve, les hommes sont transformés en garants de la fertilité féminine. On voit donc que si l'enjeu des initiations traditionnelles et utopiques concerne bien le devenir de la fonction reproductrice, le traitement qu'elles en font va dans des sens inverses. Dans un cas, il revient à l'homme de favoriser l'expression de la maternité, avec cette crainte que les femmes pourraient s'approprier la grossesse pour elles-mêmes et les hommes disparaîtraient. Dans l'autre cas, celle de l'utopie du postmodernisme, je dirais, c'est à la femme de forclore sa propre fonction procréatrice, qui serait censée mettre en danger l'humanité entière. Cette inversion symbolique reflète à merveille la transformation des relations entre les sexes qui est en train de s'opérer dans les sociétés occidentales modernes. Il ne s'agira pas tant pour la femme postmoderne personnifiée par la star de cinéma Sigourney Weaver d'assumer une fonction maternelle imposée par les hommes que de participer en tant que commandante en chef à sa maîtrise. Les femmes sont perçues comme les héros des temps futurs qui seront à même de dompter la reproduction. Au cours des 4 volets de la saga Alien, le personnage éponyme, celui qui donne son nom au film, l'étranger, ce que signifie Alien en anglais, donc cet étranger que doit combattre l'héroïne, a les traits d'un prédateur exceptionnel, une sorte d'insecte géant, mi-fourmi, mi-araignée, qui transforme ses proies humaines en cocons ou déverser le contenu de ses œufs. Alors également, il y a la silhouette d'un dinosaure, d'un squelette de dinosaure, pour bien nous marteler qu'on est en train de parler de quelque chose de très archaïque, la maternité. Donc le seul objectif de ce monstre est de se reproduire. On ne le voit jamais ni manger, ni copuler. La prédation dont il est ici question est la procréation. La bête ne dévore pas ses victimes, elle s'empare de leur corps pour engendrer. C'est un envahisseur de type cancer. Il extermine de l'intérieur en pénétrant les organismes hôtes où il se développe à la vitesse de l'éclair. L'arme suprême d'Alien est la grossesse. C'est d'ailleurs l'armée qui veut s'en emparer de cette arme. Le contenu de ses œufs est implanté dans la poitrine de ses victimes par l'intermédiaire d'un organe projectile qui a la forme d'une espèce de gros scorpion avec des mains, il y a une queue qui s'enroule autour du cou, et de cette main à l'intérieur, il y a un dard qui enfonce le contenu de l'œuf. Donc, on s'enfonce dans l'œsophage, et au terme d'une gestation thoracique relativement rapide, l'accouchement du nouveau-né provoque l'explosion de l'autre porteur. Cette chose répugnante qui a de nombreux avatars à Hollywood, la chose, the thing, la mutante, X-tro, n'est autre que le masque hideux qui sert à désigner dans l'Occident moderne l'aspect inhumain, bestial, invasif, en un mot parasitaire de la procréation. Pour corroborer cette perspective, bon, je rappellerai que l'un des enjeux de la recherche médicale contemporaine est de rendre compte du mystère du développement dans le corps maternel d'un corps étranger, alien, le bébé. Nous verrons que cette façon de concevoir le bébé comme parasite prenant possession du corps maternel transparaît dans d'autres films. Il faut que je vous dise que quand j'étais étudiante en médecine, et j'ai téléphoné à mes copains pour me dire est-ce que c'est moi qui suis obsédée ou non, effectivement on nous apprenait que le jour où on comprendrait comment il se fait que la femme accepte ce corps étranger, et on le sait que c'est par l'intermédiaire du placenta, alors peut-être on pourrait guérir le cancer. Parce que le processus entre cancer et grossesse, c'est un phénomène similaire dans la mesure où la femme sécrète à ce moment-là des cellules qui sont étrangères à son propre corps. Donc, voilà, le bébé est une forme d'étranger dans le corps de sa mère. Dans cette mythologie contemporaine qu'est la science-fiction, les hommes qui s'emparent de la créature pour accaparer ses pouvoirs reproducteurs sont du côté des méchants. En effet, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, l'idéologie occidentale associe la reproduction non pas à ce qui permet à l'espèce de se perpétuer, mais plutôt à l'anéantissement de l'espèce. Bon, l'idée est assez claire. Nous avons cette idée que plus on est évolué, moins on a d'enfants, moins on est évolué, plus on a d'enfants. En même temps, les sociétés occidentales modernes, pour survivre, doivent maintenir un taux de fertilité qui est viable, c'est-à-dire qui assure un renouvellement des générations. Alors, ils ont besoin de migrants. Si les États-Unis se portent bien, c'est qu'effectivement, ils acceptent des migrants. Mais les migrants viennent toujours de l'Est et du Sud, qui sont décrits comme moins évolués que nous. Donc, plus animaux que nous, les Occidentaux du Nord et de l'Ouest. Du coup, comme ils sont moins évolués et qu'ils risquent donc d'inséminer les femelles de cette espèce évoluée que seraient les gens du Nord et de l'Ouest, ils risquent aussi d'animaliser donc les civilisés, entre guillemets, en reprenant le terme d'Huxley. Il y a vraiment une conscience du poids démographique des riches et des pauvres, avec cette idée que la démographie galopante des pauvres risque d'anéantir l'humanité en rendant la terre-mère stérile. Donc il y a vraiment une représentation d'une guerre démographique entre groupes culturels et, du coup, dans la perspective du monde évolué des sociétés industrialisées, du G7 et de l'OMC, le degré d'évolution culturelle est estimé inversement proportionnel au taux de fécondité et la démographie galopante, la fertilité incontrôlée des femmes des pays en voie de développement, c'est-à-dire moins évoluée que les autres, encore une fois je cite les médias, est présentée comme un danger pour l'ensemble de l'humanité. À la différence de ce qui a généralement cours en milieu traditionnel, le malheur, voire la maladie, tend en Occident à être référé moins à la stérilité qu'à un excès de fertilité. Par exemple, en France, on a un mot qui est le lapinisme, vous le trouverez dans le dictionnaire, qui veut dire maladie de l'excès de fertilité. Quand on est ethnologue, on n'a pas ce genre de maladie dans les contextes dits traditionnels. Et ce thème est loin d'être moderne. En effet, Jonathan Swift, en 1729, écrivait un pamphlet dont le titre était « Une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres de devenir un fardeau pour leurs parents », où l'auteur suggère avec son humour froid et ravageur de résoudre la misère de la surpopulation des pauvres par l'anthropophagie exercée par les riches qui mangeraient les enfants des pauvres. Mais ceci dit, ça vous fait rire, mais le fait que les riches à l'heure actuelle aillent chercher leurs bébés dans les pays du tiers-monde évoque d'autres choses. Comme quoi, Jonathan Swift était sûrement un des premiers auteurs de science-fiction. Maîtriser la reproduction des pauvres, des sous-évolués, en contrôlant le ventre de leurs femmes, est devenu l'un des objectifs majeurs du monde civilisé pour juguler les risques supposés dramatiques d'un surpeuplement terrien auquel une reproduction naturelle est censée exposer l'humanité. Mais dans le même temps, comme je le disais, donc les sociétés occidentales ont des difficultés à assurer le renouvellement des populations. Ils sont obligés d'accepter des migrants. Nalo parlait de la Guyane. Et en fait, la Guyane puisque la Guyane française est encore française, et c'est un des lieux qui permet à la France d'avoir un taux de fertilité tout à fait remarquable à l'heure actuelle. Les films de science-fiction rendent explicite cette idéologie. C'est pourquoi je les aime en tant qu'ethnologue, ces films de science-fiction. Les monstres procréateurs qu'ils mettent en scène sont également les figures de l'autre, de l'étranger, c'est-à-dire des migrants dont les hordes venues du Sud et de l'Est risquent de nous submerger. Entre Alien et la crainte des jeunes de banlieue perçus comme de potentiels prédateurs, il n'y a peut-être qu'un pas de fourmi géante. De fait, la crainte d'une reproduction incontrôlée, d'une pullulation confinant à l'animalité, fait des insectes des personnages de choix dans les films de science-fiction que j'évoque ici, et dont je vais vous montrer des extraits. La tendance des insectes à proliférer dans tous les milieux, dans tous les environnements, est rattachée à leur mode de reproduction spécifique qui constitue le thème de nombreux documentaires et œuvres de fiction largement délivré au grand public ces dernières années. L'île fourmi y occupe une place de choix. On met bien en évidence le rôle de la femelle reproductrice, pondeuse, la reine mère. Si parasitisme, prolifération supermaternité caractérise l'insecte, on comprendra que l'insecte soit une figure privilégiée pour susciter l'horreur liée à la reproduction. Dans l'univers actuel, la différence de taille entre insectes et humains joue fort heureusement plutôt en faveur des humains. Mais pour représenter l'aspect terrifiant de la pullulation animale, les cinéastes mettent en scène des insectes géants au développement accéléré. Dans cette perspective, un autre aspect du mode de développement des insectes va jouer en leur faveur sur la scène hollywoodienne. Leurs métamorphoses successives, œufs, larves, nymphes chrysalides, insectes adultes proprement reproducteurs. Cette métamorphose renvoie à la façon dont la phase pubertaire, c'est-à-dire le passage d'un état stérile à un état fertile, va être symbolisée. Une petite fille inoffensive, non procréatrice, en accédant à sa puissance reproductrice, sera montrée comme se transformant en une prédatrice qui cherchera à avoir des rapports sexuels dans l'unique but horrible de se reproduire, tuant du même coup ses partenaires sexuels, telle l'amante religieuse et la veuve noire. Pour souligner la métamorphose opérée par l'accession au pouvoir reproducteur, le scénariste fera correspondre la phase pubertaire au passage par un état de chrysalide, et ça on va bien le voir, d'où s'échappera un reproducteur plein et entier. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'extrait de La Mutante, Species en anglais. Mais auparavant, je vais vous montrer des extraits de Starship Troopers, des 4 épisodes d'Alien et d'un film très très obscur, X-Tro, qui illustre bien ce dont je voulais vous parler. Alors il faut que je vous prévienne du fait que bon, moi je ne suis pas une artiste, du coup il y a une certaine maladresse de mon montage, mais également il y a donc des scènes gore, très gore, et des scènes sexe qui risquent de vous choquer. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais apparemment, c'est très choquant. Donc, je vous préviens, et notamment, j'ai appris qu'il y avait des femmes enceintes dans la salle. Donc, j'essaierai de... Je pense qu'il faut... Si vous regardez, il faut vraiment regarder, parce que si vous voyez ce qui se passe, vous aurez moins peur. Par ailleurs, je rappelle que tout ça, c'est faux. C'est de la mise en scène. Je pense que c'est utile de le rappeler, parce que même les fans de science-fiction tendent à l'oublier et ont très peur. Donc le but pour moi, c'est pas de vous faire peur, c'est plutôt que vous voyez un petit peu le travail donc de ces œuvres, de ces gens qui écrivent de la science-fiction et qui les retravaillent par l'image. Et j'espère quand même que vous aurez un petit peu de plaisir. Donc je vais essayer de faire marcher la machine, ça c'est toujours un mystère. Je pense qu'il faut que j'appuie là. Et ensuite, il faudra simplement faire. D'abord que ça load. Et puis on peut faire ça. Alors, je vais essayer à la fois de tenir la machine et puis de vous soutenir par la parole. Je pense que ça y est, il reste à côté de moi. Donc je vais d'abord vous montrer un extrait de Starship Troopers. Je vais aller doucement. Puis on va aller crescendo dans l'horreur. Donc, en fait, le premier extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait, enfin, c'est des extraits de Starship Troopers. Donc, c'est à partir d'un livre de science-fiction des années 50 de Robert Heinlein, qui est un classique de science-fiction. L'idée est la suivante. Il existe dans la galaxie ou dans une autre galaxie une espèce qui s'est tellement reproduite qu'elle est surpeuplée et donc vise à envahir la Terre pour pouvoir survivre. Donc à la catastrophe démographique dans laquelle elle s'est elle-même mise. Donc ces bêtes, ces créatures qui sont sur cette autre planète qui veulent venir envahir la Terre, sont des arachnoïdes, c'est le terme utilisé, c'est-à-dire des espèces d'araignées géantes avec des carapaces comme des carapaces de crabes. Et en même temps, vous allez voir, ça, on décline toute l'horreur liée aux insectes. À la tête de ces insectes, à la tête de la horde sauvage, il existe un espèce de monstrueux acarien dont l'ouverture mandibulaire est en fait, vous évoquera nécessairement la vulve féminine avec la bave qui va avec, et un dard qui va sortir. Donc ça, c'est le moment, je vous dirais, que c'est là où vous pouvez avoir peur, où il y a une espèce de dard qui va rentrer dans le cerveau d'un monsieur pour aspirer le cerveau. Vous savez, c'est l'expression des jeunes, en France en tout cas, qui s'appelle « prendre la tête ». Ça vous prend la tête, on sait un petit peu, pour illustrer ça. Donc ça, c'est le premier extrait que je vous invite à regarder. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la représentation, donc vous puissiez voir que c'est une représentation de l'invasion par les gens de l'Est et du Sud au travers de hordes d'insectes. Alors... Ah non, oui, c'est vrai. Alors, oh mince, j'étais trop vite. Tu vas le faire. Sinon, je...
Bon courage.
Vous voyez le côté stimulant, envahissant. Donc ces bêtes envoient sur Terre des météorites pour détruire la population humaine. C'est pourquoi les humains sont obligés d'aller sur leur planète pour les détruire. De la guerre d'Irak, telle que ça a été montré dans les journaux télévisés, est assez percutante, je trouve. Là, nous sommes au cœur de la meute. Vous avez cette espèce de cerveau de la meute, qui est un gigantesque acarien, comme oui, un cerveau, mais un acarien. Là, on peut aller plus fort pour entendre ce que disent les petits jeunes. Là. Donc c'est là que ça va être difficile, mais regardez bien, et ce n'est que un film.
Tu verras, un type comme moi viendra bientôt. Il viendra et il te tuera, toi et tous tes putains d'insectes.
Et Bush Junior, non ? Voilà, donc ça c'est le premier extrait que je voulais vous montrer. Donc on rentre tout doucement. Le deuxième extrait, c'est donc des extraits du premier Alien, le huitième passager, c'est évidemment la chose. Donc je vous signale aussi que Alien, donc le premier film du type Alien est paru en 1951. Ça s'appelait La chose venue d'un autre monde. Puis ça a été repris donc dans les années en 78 par Ridley Scott, c'est sorti en 79, et ça a été jusqu'au quatrième qui est sorti dans les années 90. Mais entre-temps, il y a eu également la chose donc de Carpenter. Donc c'est vraiment un motif qui revient et qu'on voit dans des dans certains épisodes de séries américaines. Donc, le premier épisode, ce sont des gens qui appartiennent à une compagnie qui va chercher du minerai dans l'espace intergalactique. Et sur le chemin qui les ramène sur Terre, en fait, ils entendent un SOS et ils vont sur une planète qu'ils ne connaissent pas et se retrouvent face à des milliers d'œufs, des espèces de gigantesques œufs, qui sont en fait comme des utérus extériorisés, d'où va sortir de l'un d'entre eux une bête, cette espèce de scorpion géant dont je vous parlais, qui va se coller à la tête d'une des personnes qui est allée voir d'où émergeait ce SOS. Et donc cet homme va être en fait mis enceint, mais au lieu d'être enceint dans la partie basse de son corps, comme habituellement le sont les femmes pour l'instant chez nous, c'est au niveau de la cage thoracique, donc qui va être inséminé, que va se développer la bête qui va provoquer l'explosion du monsieur. Donc voilà, donc je pense qu'on peut regarder cet extrait. Je vais essayer de remonter. Donc, là, c'est le début, donc il est en train de regarder les œufs, ce monsieur.
Ils semblent complètement fermés.
Moment,
ça bouge.
La bête va sortir, donc préparez-vous, ça fait pas peur quand on le sait.
On dirait qu'il y a une vie organique.
Donc vous voyez la forme de l'œuf. Effectivement, un œuf, c'est ce qui fait office d'utérus quand on n'est pas vivipare. Hein. Un méchant officier scientifique qui est en fait un androïde qui est chargé par la compagnie de ramener cette bête même si c'est au prix du sacrifice de l'équipage. Là, le monsieur qui a été inséminé a d'abord eu une boulimie comme les femmes enceintes et là finalement il se retrouve malade et on va avoir un petit aperçu de ce que c'est qu'un accouchement. Donc de son thorax va jaillir en le faisant exploser une petite reine alien avec toutes ses dents.
Mais ils sont entre les dents. Tu vois pas que c'est ce que je fais. Vas-y. Attention, tenez-le.
C'est le petit bébé.
Marker, ne le touche pas, non, ne le touche pas.
Alors l'officier va vouloir garder ça parce qu'effectivement, ça pourrait être une arme précieuse à vendre pour l'armée. Alors ça c'est le premier épisode, donc tout le monde va mourir, tué par la bête qui va grandir très très vite. Et Ripley va être avec son chaton, que vous n'avez pas vu là, mais qu'elle a un chaton, va être la seule survivante. Et ça sera comme ça jusqu'au troisième, elle va mourir, le deuxième aussi elle va être la seule survivante. Donc le deuxième épisode, les extraits du deuxième épisode que l'on va voir maintenant... Donc le deuxième épisode, Ripley, qui a pu se sauver dans une capsule de sauvetage, a été récupérée 57 ans plus tard, mais comme elle était en hibernation, elle est jeune, elle a commencé à vieillir, elle change au fur et à mesure des épisodes. Et en fait, entre-temps, dans les 57 ans, la compagnie, qui savait très bien qu'il y avait une bête malfaisante, a quand même envoyé des colons coloniser la planète maudite. Et... les colons, tout d'un coup, ne transmettent plus rien à la Terre. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et on envoie Ripley avec des fusiliers marins, c'est-à-dire des Marines, aller voir sur cette planète qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils y vont et ils découvrent que tous les colons ont été ensemencés par la bête, transformés en cocons, où elle a déversé des choses pour se reproduire. Seule survivante, c'est une petite fille, Newt, qui veut dire salamandre en anglais. Donc la petite fille est la seule survivante qui va adopter Ripley comme sa mère adoptive. Et cette petite fille va dire au cours du film, « Ma maman me disait toujours que les monstres n'existaient pas, mais je sais qu'ils existent. » Et ça va être repris dans l'épisode 4 qu'on verra. Donc c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, ça va être dans le quatrième épisode, on entendra la voix de Ripley dire ça. Et le monstre, évidemment, ce que je vous propose comme interprétation, c'est la fonction reproductrice. Donc on va regarder cet épisode. Donc là, ils sont sur la planète maudite. Et donc, ils observent l'animal. Et là, donc ils découvrent donc que les colons ont été infestés et transformés en cocons. Et cette femme, qui est un cocon, de son corps va jaillir donc un alien. Vous allez vous en tirer. Aidez-moi, les mecs. Il faudrait dégager.
Qu'est-ce qu'elle fait ? Une convulsion.
Et dans le livre qui a été écrit à partir du script, Ripley s'identifie totalement à cette femme. Là donc, en fait, l'officier scientifique de cet épisode veut que Ripley, donc l'héroïne, et la petite fille soient ensemencées pour la bête pour pouvoir les ramener sur Terre. La petite fille a été enlevée par des soldats d'aliens et emmenée dans sa ruche où il y a des milliers d'œufs. Et donc de l'œuf doit sortir quelque chose, cette bête qui doit ensemencer la petite fille, qui est une métaphore aussi de sa transformation qu'elle doit subir pour devenir une petite jeune femme. Donc là, Ripley observe la reine alien est en train de pondre à l'aide d'un appendice qui s'appelle un oothèque, qui pour les ovipares permet de pondre des œufs. Et alors pour combattre Ripley, elle va détacher délicatement son oothèque pour aller combattre Ripley. On verra que c'est beaucoup plus propre, clean, d'avoir un oothèque que d'accoucher naturellement. Alors voilà, vous avez l'une en face de l'autre, vous avez la reine alien, qui en fait a des caractéristiques qui la rapproche d'une mante qu'on appelle empusée, c'est un terme scientifique, une mante particulière. Et vous avez donc Ripley, la femme, face à sa fonction reproductrice, et entre les deux, une petite fille non encore pubère. Le feu aux œufs de la ruche qui va mettre très 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 en colère la reine. Là c'est un androïde simplement qui est coupé en deux. Alors c'est ça que je vous demande de bien regarder, c'est je vous proposais de voir le combat entre la femme et sa fonction reproductrice.
Non, moi ici.
Donc vraiment le moi ici, avec la petite fille qui doit être protégée, c'est assez saisissant, disons. Alors, l'épisode 3 d'Alien, Ripley est encore la seule, enfin, elle est la survivante, elle part dans la capsule avec l'androïde qui, vous l'avouerez, est en très mauvais état, et est un androïde, la petite fille, et puis un autre officier qui est en très 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 mauvais état. Elle est en fait récupérée dans une prison intergalactique qui est une planète où il n'y a que des hommes qui sont des meurtriers de femmes. ce sont des XYY, donc des super mâles qui sur Terre ont violé des petites filles ou des femmes ou les ont tuées et qui ont décidé de ne plus avoir dans leur chez eux de femmes parce que les femmes ça porte malheur. Et manque de bol, ils ont Ripley qui arrive chez eux et on va lui forcer à lui raser la tête, ce qui évoque bien des choses au niveau de l'initiation dont je vous parlais, mais enfin bon, c'est autre chose. Et donc Ripley arrive et en fait elle se rend compte qu'elle est la seule survivante, les autres sont tous morts, et qu'elle a emmené dans son sillage une alien, et que par ailleurs elle est enceinte d'une reine alien, ce qui la transforme en un bijou très très précieux pour la compagnie qui veut la récupérer, parce qu'effectivement la grossesse est jugée comme une arme très précieuse qu'on peut vendre à l'armée, aux armées les plus offrantes. Donc elle va se faire ami-ami avec les prisonniers pour tuer la bête. Cette prison intergalactique était autrefois une fonderie où on faisait du métal en fusion, de l'acier en fusion, et donc on va traquer la bête pour l'amener à sauter dans le métal en fusion pour qu'elle disparaisse. Mais en même temps, on n'a pas résolu le problème puisque Ripley risque d'être emmenée par la compagnie. Donc elle se sacrifie pour sauver l'humanité, et elle se sacrifie en se jetant dans le métal en fusion tel un Christ en croix. Ça, je ne l'ai pas inventé parce que Cameron qui a fait cet épisode est très mystique. Donc elle se jette. Le troisième ? C'est le Fincher. Enfin, toujours, elle se jette dans le métal en fusion. Elle a vraiment ce geste. C'est très rapide. C'est pour ça que je vous le rappelle. Et pendant qu'elle fait ça, la petite reine sort d'elle, de son poitrail. Et du coup, elle attrape, telle une vierge. Et elle se sacrifie avec sa petite fille. Donc... Donc là, elle découvre qu'elle est enceinte grâce à l'échographie.
Oh,
et là, ils entraînent la bête dans le métal en fusion.
Il s'amène, Dylan. Le voilà. Et le voilà, Dylan. Aspermez ce putain de ça.
Donc voilà, elle s'est sacrifiée, elle est morte, mais Dieu merci, elle va être réincarnée. Donc effectivement, 250 ans plus tard, de l'ADN a été prélevé du chaudron, et donc elle va être reconstituée par hybridation. Le problème étant que l'ADN de Ripley et l'ADN de la chose, de la bête, se sont mélangés, ce qui fait que Ripley a acquis... des qualités de cette bête, c'est-à-dire qu'elle est super rapide, elle peut cicatriser très vite. Et en même temps, maintenant qu'elle a intégré en elle sa fonction reproductrice, puisqu'elle est en elle, ça a changé profondément sa nature, comme toute femme, une fois qu'une femme est menstruée, forcément elle est tout autre que ce qu'elle était avant. Et donc, elle est beaucoup moins émotionnelle. Ça lui fait pas grand-chose de penser que sa progéniture puisse exterminer l'humanité. Dieu merci, il y a une femme super robot qui, elle, veut sauver l'humanité. C'est une robote qui a été reproduite par un robot. C'est une robote de deuxième génération qui, elle, qui s'appelle Cole, donc qui vient au secours des humains pour les sauver et qui va être ce qui va permettre à Ripley de recouvrer son âme en dépit du fait qu'elle est devenue une mère. Donc on va regarder, vous allez voir, il y a des éléments où on va s'arrêter un peu plus, où ils vont être... c'est compliqué cet épisode, il a plein de choses. Donc en fait, des pirates, des mercenaires sont payés pour récupérer, pour kidnapper des personnes qui deviennent des hôtes pour les aliens, sur un vaisseau dirigé à la fois par des militaires et où sont payés des officiers scientifiques pour faire ces processus de reproduction médicalement assistée. Donc on va commencer par voir Ripley qui est dans, qui a été reconstitué dans un tube à essai, et on entendra la voix de Ripley dire ce que la petite fille disait. Ma maman me disait que les monstres n'existaient pas, mais ils existent. Et puis ensuite on va assister à une césarienne thoracique. Là on va faire clean, c'est vraiment, on va voir la petite reine. Et puis ensuite, on va donc ce qui va se passer, c'est que donc les œufs de la reine, on leur offre des hôtes, donc qui ont été kidnappés par des mercenaires. On va voir un monsieur qui va se réveiller comme dans un cauchemar en voyant effectivement qu'il y a un œuf en face de lui qui est en train de sortir quelque chose qui va l'ensemencer. Donc on va à nouveau avoir une grossesse masculine. Et puis en fait, la robot Ripley, toutes les deux vont convaincre les mercenaires de faire exploser ce vaisseau satanique, et donc ils vont se sauver, mais ils vont être piégés dans l'eau où il existe à nouveau une ruche de l'alien, et vous allez voir, c'est très très gluant comme l'est le placenta, ils vont être un petit peu piégés. Ripley va en fait tomber dans la fosse où sont sa petite famille, c'est comme ça qu'on appelle les enfants, parce que c'est grâce à elle que ont été générés donc tous ces descendants d'aliens. Par ailleurs, sa fille, la reine qui a pondu tous ses œufs, a maintenant acquis un système reproducteur humain qui lui permet d'avoir une matrice et donc d'enfanter de son corps, ce qui va permettre au scénariste de nous montrer une scène absolument affreuse pour bien montrer combien l'accouchement naturel par voie naturelle est dégoûtant. Va sortir le premier mâle de l'espèce alien, qui est un mâle hybride, mi-humain, mi-alien, qui n'est pas du tout reconnaissant, parce que l'idée, c'est qu'évidemment, les enfants ne sont pas du tout reconnaissants à leurs parents. Et il va tuer sa mère naturelle, qui a tant souffert pour lui donner la vie. Et par contre, il va trouver que Ripley, sa grand-mère, son père, sa mère, est pas mal à son goût. Mais elle va être obligée de le sacrifier pour nous, pour que nous vivions. Donc, on... Donc voilà Ripley dans son tube à essai. Donc elle est sans cheveux. Vous vous souvenez qu'elle avait été, enfin qu'elle avait le crâne rasé dans le précédent épisode. But there are. Donc là, les médecins sont ravis de ce qu'ils ont créé. Là, on assiste à la césarienne thoracique. Et vous voyez toutes ces personnes autour de la mère, c'est comme les rois mages hein, dans l'histoire qu'on connaît mieux. Elle est mignonne, en dépit de ses petites dents. Donc là, c'est très très intéressant. Vous voyez, Ripley a accouché et maintenant on la présente comme dans une chrysalide. Ça, c'est un signal pour nous dire, avant, après l'accouchement, elle n'est plus la même. Il n'y a pas nécessité de la montrer dans une chrysalide après qu'elle ait accouché, mais c'est très, très puissant au niveau du symbolisme. Donc, elle va déchirer grâce à ses ongles griffes, puisqu'elle est maintenant en partie animale, son cocon. Et elle regarde sa cicatrice. Là, ce sont donc les gens qui ont été kidnappés par les mercenaires et qui sont donnés en pâture aux œufs d'alien. Donc l'alien, la petite reine qui est la fille de Ripley.
Alors, là, c'est l'épisode maintenant, la partie de, l'épisode où on va assister, où ils vont tomber dans le piège de tomber dans la ruche sous-marine de l'alien. Vous voyez ce côté gluant. Et en France, il y a eu une publicité pour de l'eau minérale où à la place des œufs, c'était des petits bébés qui étaient... La Ripley tombe dans une fosse où il y a plein d'aliens. Et en fait, il y avait une scène érotique qui a été coupée. Enfin, on évoque quand même l'érotisme. Là, vous avez la robot Winona Ryder. Donc, dans l'épisode coupé, Ripley jouissait de ce contact avec sa descendance. Donc là, on est maintenant, on assiste à l'accouchement de la reine alien par voie naturelle. Et ça, c'est celui, le médecin qui a généré tout ça, qui est un peu fou, qui a été transformé en cocon, et qui va être puni en plus.
That is Ripley's gift to her, a human reproductive system. She is giving birth for you, Ripley, and now she is perfect.
Donc pour lui, dans sa conception de cet homme qui nous est bien présenté comme fou, la bête est parfaite parce qu'elle a acquis un système reproducteur et elle va accoucher à la place de Ripley. Et en même temps, l'image, le livre qui a été écrit à partir du script décrit un accouchement qui est absolument dégoûtant. Donc là, la bête a un ventre distordu, comme quand on nous montre, vous savez, la reine des fourmis, qui ressemble même plus à une fourmi normale, tellement son corps est distendu par le fait de produire des œufs. Et là, vous avez un corps complètement distendu et une souffrance extrême. Donc on voit bien comment le champ obstétrical occupe quand même les écrans. Voilà le fils prodige, qui a en même temps les traits de la mort, ce qui est effectivement aussi souligné dans le livre.
A beautiful, beautiful butterfly.
Et en guise de reconnaissance, il va couper la tête de sa mère. Et elle est toute contente d'avoir accouché. Comme je vous disais, il trouve par contre que son autre maman, sa grand-mère, son père, enfin, toutes ces choses que représente Ripley, elle est pas mal. Effectivement, il devait y avoir également une scène sexuelle entre Ripley et son fils, et ils l'ont coupée également, ils n'ont pas faite, je crois même.
Beautiful little baby. Look, it thinks you're its mother. Come on. Come on. Come on.
Donc, père et mère naturels, si j'ose dire, sont tués. Alors, maintenant, nous allons voir un extrait de ce film très obscur qui s'appelle X-Tro. C'est un père qui a été abducté par des aliens et il revient sur Terre sous la forme d'un insecte. Et cet insecte, pour reprendre forme humaine, va se faire réengendrer par une femme. Ça, c'est la partie où je demande peut-être à des femmes enceintes de ne pas regarder, parce que moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Donc, je vous dirai, encore une fois, c'est de la mise en scène, c'est pas vrai, donc c'est important que vous sachiez. Et donc, il veut récupérer son fils. Donc, il a une forme humaine, mais maintenant, il a une nature, en fait, alien. Et on ne sait pas très bien par quel moment, par quel moyen, il va mordre la baby-sitter de son fils. Elle va être transformée en chrysalide, dont va jaillir des œufs qui sont mis par des jouets du fils, qui sont devenus des jouets vivants et sataniques, dans un frigo. Et donc la mère et la mère du petit garçon et qui était la femme de ce monsieur qui est maintenant aliénisé vont faire l'amour ensemble, mais le monsieur au fur et à mesure redevient alien, reprend sa forme humaine, emmène avec lui son petit garçon. Mais Dieu merci, quand la maman va revenir à la maison, elle va trouver tous ces petits garçons que lui a laissé par l'intermédiaire des œufs pondus par la baby-sitter, son mari. Alors, l'interprétation est complexe, mais l'idée, c'est encore une fois alien, insecte et prolifération des bébés. Voilà le père qui revient sur Terre sous forme insecte. Et donc, il se fait réengendrer par cette pauvre dame. Alors, c'est là la scène très violente, je trouve. Donc, encore une fois, c'est une mise en scène, c'est pas un vrai corps, mais c'est tellement réaliste que c'est vraiment difficile. Voilà. La partie difficile est partie. Il va sortir du corps de cette femme un adulte masculin entier qui va lui-même se couper son cordon ombilical.
Je suis désolée, mais plus de temps. On arrête maintenant, je pense. 9h05.
Donc voilà, c'est la baby-sitter qui a été transformée en chrysalide, d'où sortent des œufs, et ce clown, c'était un jouet qui est devenu vivant. Toujours cette idée de chrysalide. Donc c'est le père qui est redevenu alien, et vous voyez la ressemblance avec le fils de Ripley dans le quatrième épisode. Et il emmène son fils, et vous voyez le côté animal et insectoïde. Et elle revient chez elle. Elle trouve tous ses enfants tout faits, qu'il appelle maman. Elle est enceinte des œuvres de son Marie. Donc le côté pullulant des aliens. Alors, donc on a presque terminé, hein, je crois qu'on restera dans les temps. Donc maintenant on va voir un extrait de la mutante. Donc l'idée les gens ont récupéré un ADN extraterrestre. Et de cet ADN va se transformer en 3 mois en une petite fille prépubère. Et donc, en 3 mois, comme c'est une petite fille, ils ont très très peur de ce qui va se passer. Donc ils décident de la tuer. Et comme elle le devine, parce que tous les extraterrestres sont télépathes, hein, ils sont supérieurs à nous, donc elle se sauve. Et en fait, elle a une crise de boulimie comme les adolescentes. Et tout d'un coup, elle découvre qu'elle va avoir une transformation de son visage. Et en fait, elle se transforme elle-même en une chrysalide, d'où va jaillir une femme absolument super sexy, qui est très différente de la petite fille un petit peu potelée, pas très jolie. Là, on a une super femme qui n'a qu'un seul but, se reproduire. Donc, elle veut faire l'amour avec des hommes, mais uniquement pour se reproduire. Et c'est les hommes qui se trouvent en train de dire « Eh, c'est un peu trop vite, peut-être qu'on pourrait prendre plus de temps. » Et elle, ce qui l'intéresse, c'est uniquement de pouvoir avoir des enfants. Et donc, on va voir un anthropologue qui, quand elle lui dit qu'elle est enceinte, qu'elle le sent déjà, il se moque d'elle et tout d'un coup, il se rend compte que, en fait, c'est l'alien qui est recherché. Donc, ça va être suffisant pour l'instant. Bah, c'est la petite fille, donc, issue de l'ADN extraterrestre, qui a sa crise de boulimie pubertaire. Qui se rend compte qu'elle est en train de se métamorphoser. Ne vous inquiétez pas, en fait, sa métamorphose va très bien se passer. Voilà. Donc maintenant, elle est transformée en cette chrysalide d'utérus, d'où va jaillir une très belle femme. Enfin, entre-temps, on aura quand même un meurtre. Renaissance. Et donc là, elle cherche des partenaires sexuels pour se reproduire.
Tu serais idiot d'attendre plus longtemps.
Oh, ouais, complètement idiot.
Non, enlève ça.
Oh, c'est un peu rapide. Vas-y, relax. On a tout le temps.
Et donc, quand elle est reproductrice, sa partie animale ressort.
Je veux faire l'amour avec vous.
Là, elle a changé, elle a teint ses cheveux, c'est la même personne. Et là encore, elle veut faire l'amour pour avoir des petits.
Mon ventre.
Quoi ?
Dedans.
Mais qu'est-ce qu'il y a ?
Je sens la vie.
Oh, ma chère enfant. J'admets qu'il existe des peuplades où les femmes disent savoir à quel moment elles ont été fécondées, mais bon, c'est...
Ça me met déjà dans mon ventre.
Mais vous êtes...
Vous êtes la hyène.
Alors voilà, c'est la même femme. Une fois qu'elle est en train d'accoucher, donc vous voyez, elle a une forme complètement animale. Et voilà son petit garçon. Voilà. Donc, dernier épisode. Pour l'instant, on est encore dans les temps. Donc là, le dernier épisode, c'est la suite. Donc, ils ont obtenu une alien, mi-humaine, mi-alien, qui va les aider à retrouver en fait un alien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été sur Mars, des cosmonautes, et ils ont été infectés, en particulier un cosmonaute qui est le fils du président des États-Unis, par un alien extraterrestre. Du coup, le monsieur fait l'amour, ne peut pas s'empêcher de faire l'amour à des femmes, mais à chaque fois qu'il fait l'amour, et parfois il fait l'amour avec deux femmes à la fois, elles sont immédiatement enceintes, leur ventre explose et sort de leur corps immédiatement, hein, sort de leur corps des petits garçons que le monsieur va emmener dans une cave où là il se transforme comme la petite fille en chrysalide dont on sait, on ne le verra pas, que va sortir des prédateurs qui vont exterminer l'espèce humaine. Donc, normalement, pour retrouver le type, on se sert de la mi-alien, mi-humaine, mais malheureusement, ils ont une attirance reproductrice telle qu'ils se retrouvent ensemble pour procréer. La mi-humaine veut quand même aider les humains, mais elle est violée buccalement par son partenaire sexuel, et ça se terminera là, je vous promets. Oui. C'est ce monsieur qui a donc des poussées sexuelles très importantes et donc il fait l'amour avec deux femmes en même temps et toutes les deux en fait cette association donc reproduction sexe est montrée comme potentiellement mortelle et animalisante. Ça, c'est la mi-alien, mi-humaine, qui sent ce qui se passe avec les gens de son espèce. Parce que l'idée derrière, c'est qu'aussi, nous les évolués, on est individualisés, tandis que eux, ils forment un collectif. Alors là, c'est une femme cosmonaute qui a été aussi, en fait, infectée par l'alien, mais alors... Le mari va être neutralisé par la chose. Une autre femme avec qui le monsieur a fait l'amour et elle est morte par son accouchement. Mais à côté du lit, il y a un petit garçon tout fait. Et les amène dans une cave où ils se transforment donc en chrysalide. Donc la puberté. C'est le monsieur qui a une attirance irrésistible vis-à-vis de la mi-humaine, mi-alien. Quand ils font l'amour, ils se transforment, puisque le but c'est la reproduction, ils se transforment en animal. C'est une femme médecin qui essaie d'éviter le pire, donc elle raisonne la dame. Et donc, encore une fois, ce qu'on nous montre là dans cette dernière image, c'est le côté donc mi-animal, mi-humaine de la femme en général une fois qu'elle enfante. Vous allez voir, la partie basse du corps est animale, la partie haute est une ravissante jeune femme, bien sûr blanche et blonde. Et l'histoire se répétera de génération en génération, comme l'évoque ce ventre qui se gonfle. Et déjà un petit garçon. Merci.